CFM. CFM. À qui le tour? 17h30, 19h. CFM.
Bonjour tout le monde, salut Rémi.
Salut Aurélien, salut à tous. Vous avez reconnu ce générique, ce n'est pas celui de l'émission À qui le tour, parce que de façon exceptionnelle aujourd'hui, dans le cadre toujours de la campagne aux élections régionales, nous allons faire une place à Kader Youb qui reçoit un invité tête de liste aux prochaines élections régionales, Christophe Cavard, tête de liste
et bien commun.
Du bien commun.
Bonjour Rémi.
Bonjour Kader.
Bonjour à tous.
Alors, ton invité n'est pas là?
Non, pas là, il va pas tarder à arriver.
Pas tarder.
Il est au téléphone, hein. On attend qu'il arrive, ce sont les
d'accord.
Les aléas
mais
de la circulation.
Il est déjà avec nous par téléphone. Eh bien, très bien. Bonjour Christophe Cavard.
Bonjour.
Bonjour Christophe Cavard.
Merci d'être là sur la route, on vous attend donc, on commence l'interview par téléphone en attendant que vous arriviez jusqu'au studio.
Bonjour Christophe Cavard.
Bonjour.
Alors, dans votre présentation, on a oublié de dire que vous êtes député du Gard et que vous avez donc, vous conduisez une liste, la liste Bien Commun.
Oui, c'est ça. Je suis donc parlementaire depuis 2012, un député écologiste, pour être précis, qui appartient donc au groupe des écologistes. Et donc, du coup, c'est effectivement aujourd'hui important puisque c'est fait partie des enjeux importants qu'on connaît depuis vendredi, vous vous en doutez, où les parlementaires sont très sollicités
oui.
Vu le drame qu'on a connu vendredi.
Oui, sur le drame, si vous voulez bien, on va commencer par cette actualité. Vous l'avez, bien sûr, vous êtes certainement au courant, deux morts, cette interpellation après l'opération de ce matin menée à Saint-Denis. Cinq jours après les attentats du 13 novembre qui ont fait au moins 129 morts. La cible de l'opération était le commanditaire présumé de l'attaque, mais cela n'est pas confirmé. Lundi, vous étiez en votre qualité de député à Versailles. Les parlementaires y étaient réunis en congrès à l'occasion d'un débat après le discours du président. Chaque parti a pu présenter ses propositions et on a vu déjà poindre des différences, une fissure dans l'unité nationale. Quelle est votre position à vous, Christophe Cavard?
Écoutez, moi, je trouve important aujourd'hui que ce qu'on appelle l'unité nationale soit respectée. On est dans une situation, le président l'a dit, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de présidents de la République qui ont pu malheureusement déclarer le fait que nous étions un pays en situation de guerre.
Oui.
Donc c'est pas anodin et donc aujourd'hui nous faisons cause commune avec les propositions et c'est le choix que j'ai fait moi en tout cas en tant que parlementaire avec les propositions du président de la République. Après ces propositions vont avoir une déclinaison législative donc
oui.
Les débats vont naître de ces propositions et c'est là où nous allons prendre le temps aussi de faire en sorte que ces lois aussi correspondent à nos valeurs,
oui.
Valeurs républicaines et nos valeurs constitutionnelles.
Justement, donc vous parlez de vos valeurs. Le président a annoncé cet après-midi qu'il y aurait un projet de loi qui serait présenté au Parlement qui porterait à 3 mois l'état d'urgence. Est-ce que ce sont cette décision est en osmose et n'est pas en contradiction avec vos valeurs hein. Vous, on sait que Cécile Duflot est contre cette mesure d'agrandissement ou d'augmentation du temps d'état d'urgence.
Non, Cécile Duflot va voter hein, le prolongement, comme la plupart des parlementaires écologistes, nous allons voter le prolongement de l'état d'urgence sur 3 mois. Après, le débat, c'est évidemment que le pays ne peut pas rester en état d'urgence permanent.
Oui.
Et donc, il va falloir trouver d'autres moyens. Mais là, aujourd'hui, au vu du choc qu'on a pris, la violence de ce qui s'est passé vendredi, il faut effectivement réagir.
Êtes-vous pour que soit inscrit cet état d'urgence dans la Constitution?
En fait, c'est pas vraiment. L'état d'urgence existe déjà. Il est lui-même par la loi de 55 déjà constitutionnel. La seule chose, c'est comme la loi datée de 1955, il y a un certain nombre de ménagements de la loi de 55 qui, eux, ne pourraient ne pas être constitutionnels. C'est ce qui explique la proposition du président de réunir un congrès à Versailles pour changer la Constitution, pour que cette loi de 55 nous allons modifier avec les réalités modernes. Je pense évidemment à tout ce qui concerne les perquisitions administratives autour notamment des ordinateurs, etc., qui, vous en doutez, n'était pas prévu en 55,
oui.
Puisse être constitutionnel. Donc c'est une modification de la Constitution qui permet de légaliser l'adaptation de la loi 55 qui est prévue justement pour pouvoir réagir en cas d'attaque telle qu'on l'a connue vendredi, malheureusement.
Une question politique, plutôt géopolitique, si vous permettez, en votre qualité de député, seriez-vous pour, à l'instar de d'autres députés, pour l'envoi de troupes françaises au sol, en Irak et en Syrie?
Écoutez, ça c'est un débat très très compliqué. Je vous avoue que je pense qu'il faut de toute façon monter d'un cran au niveau de l'intervention militaire, parce que si on mène la guerre, et donc un pays qui est en situation de guerre, malheureusement, il est évident qu'il faut se confronter à l'ennemi. Et là, pour le coup, l'ennemi, c'est l'État islamique, c'est Daesh. Après, est-ce qu'il faut envoyer des troupes au sol? On a vu aussi des situations parfois difficiles où vous avez vu des troupes intervenir dans certains pays et pour autant rien régler. Donc je pense que c'est un vrai débat. Et là, c'est un débat qu'on ne peut pas avoir seulement entre parlementaires. C'est un débat aussi qu'on doit avoir avec la population française. Oui,
et pourtant...
Si on envoie des troupes au sol, il peut y avoir aussi des soldats qui, évidemment, se retrouvent en situation de danger. Et donc, c'est pas un choix anodin, donc même si ça relève du président de la République, hein, c'est lui le chef des armées, je pense que c'est un débat qui peut être aussi mené avec la population.
Ouais, mais et pourtant, certains spécialistes de défense, notamment, font état d'une distorsion, d'objectifs réalisables lorsqu'il y a des frappes avec des chasseurs, et quand même les Russes nous adoraient, il y a très peu de dégâts occasionnés sur les troupes de Daesh.
Alors en fait, c'est parce qu'il y a déjà des troupes au sol. Vous le savez comme moi, il y a aujourd'hui d'autres pays, et donc ce qu'a demandé le président de la République, c'est déjà une résolution du Conseil de l'ONU. Donc cette résolution, c'est pour pouvoir légitimer et en sorte qu'une coalition à l'échelon de beaucoup de pays du monde puisse intervenir justement ensemble pour pouvoir détruire cette armée terroriste qui s'est enquistée là-bas en Irak et en Syrie. Après, est-ce que ce sont les troupes françaises toutes seules qui doivent y aller? Comment se travaille la coalition? Il y a des gens sur place. Vous savez que l'armée irakienne, c'est ce qu'elle est, mais qui intervient. Vous savez aussi qu'il y a les Peshmerga, vous savez aussi qu'il y a les Kurdes. Bon, voilà, donc c'est aussi comment on va retravailler cette question-là et comment l'armée française viendra aussi en appui potentiellement sur place. Mais est-ce qu'il faut pour autant avoir une logique d'envoyer, au même titre que les États-Unis l'ont fait en Irak, des troupes sur le sol? Je ne suis pas tranché, je le dis tout de suite, mais ouais, c'est pas qui est assez compliqué et qu'on doit mener, à mon avis, à plusieurs, pour éviter de se précipiter dans l'émotion de l'attaque qu'on a connue vendredi.
Ouais. Selon vous, Christophe Cavard, ce sera l'avant-dernière question sur ce sujet. Selon vous, est-ce qu'il faut inclure dans cette force au sol les troupes de Bachar al-Assad? Est-ce qu'il faut que Bachar al-Assad, avec ses troupes fidèles au président syrien, aide au sol la lutte contre Daesh?
Non, moi, en fait, je fais partie de ceux qui pensent qu'effectivement, la priorité aujourd'hui, c'est Daesh et l'armée terroriste qui s'est enquistée une fois de plus sur la partie de la Syrie. Non. Pour autant, on ne peut pas faire de Bachar al-Assad un allié, ça, c'est pas possible.
Non.
Voilà. Je le pense sincèrement.
Même de circonstances D'accord.
Même dans ces circonstances-là, parce que à un moment donné, on parle aussi d'une logique de gens qui sont dans des régimes dictatoriaux, et donc même contre Daesh, on ne peut pas à ce moment-là faire fi de cette question-là. C'est pas possible.
Alors une dernière question avant, je l'espère, que vous nous rejoigniez ici en présentiel au studio de CFM. La solidarité nationale est-elle aussi solide qu'il y a 10 mois après les attentats de janvier, selon vous?
Je pense qu'en tout cas, la population a très envie aujourd'hui de montrer que les gens sont soudés les uns avec les autres. Le monde politique, parfois, lui, n'est pas toujours au diapason avec cette réalité de cette demande de nos concitoyens. Après, j'espère, moi, par contre, qu'on va pouvoir accepter aussi un certain nombre de mesures exceptionnelles, mais qui sont là pour défendre notre liberté. Vous savez, je suis un parlementaire, donc je le dis, mais ça résonne d'autant plus ici à Montauban, qui est travaillé, qui est présidé une commission d'enquête parlementaire suite à l'affaire Mera. Donc j'étais sur cette commission d'enquête parlementaire qui travaillait sur les moyens des services de renseignement pour lutter contre le djihadisme et l'islam radical. Donc je sais de quoi je parle, et je suis un écologiste, je suis éducateur, je suis pas un pro-sécuritaire du tout, mais je sais qu'à un moment donné, il y a aussi un certain nombre de mesures d'urgence qui peuvent être prises. Il faut qu'on y travaille ensemble, qu'on les accepte, mais qu'à un moment donné aussi, on soit capable, nous-mêmes, c'est tout un chacun, à pouvoir apporter aussi notre solution, la façon dont on peut construire dans notre quartier, dans notre ville, à notre travail, la façon dont on peut aujourd'hui vivre dans cette logique de guerre, entre guillemets, même si on n'est pas dans la guerre traditionnelle telle qu'on a pu la connaître dans le passé.
Christophe Cavard, Kader Youb, je vous propose de marquer une courte pause dans nos échanges. On se retrouve juste après la pub.
CFM à Montauban. Montauban. 101.2. 101.2.
Hey, psst, faire vos courses en grande surface un dimanche matin? C'est possible. Un boucher à votre disposition un dimanche matin? C'est possible. Une carte de fidélité U avec encore plus d'avantages? C'est possible. Dans votre magasin U Express de Villeneuve d'Aveyron, tout est possible.
Et oui, à 5 minutes de Villefranche, U Express est ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 19h30 et le dimanche de 8h30 à 12h30. Proximité, fidélité, U Express de Villeneuve, une équipe jeune et dynamique dans votre chariot.
Du 16 au 29 novembre, le festival Lettres d'automne fête ses 25 ans par une édition anniversaire exceptionnelle. À Montauban, Moissac, La Française, Molière ou Montricou, des rencontres, spectacles, concerts, lectures, cinéma autour de l'œuvre d'Agnès de Sarthe. Des écrivains, comédiens, musiciens ayant participé à Lettres d'automne depuis sa création seront là. Nathalie Dessay, Laurent Naouri, Fanny Contenson et bien d'autres réunis autour d'Agnès de Sarthe. Assistez à des spectacles, concerts et rencontres en famille et profitez des petits déjeuners à la gare et des vitrines vivantes des commerçants. Lettres d'automne, c'est du 16 au 29 novembre.
Vous êtes un professionnel et vous recherchez une communication à l'image de votre entreprise. Percutante, efficace et unique. Située à Villefranche-de-Rouergue, Maté Brillant Communication crée votre identité visuelle sur mesure. Conception, impression tout support, signalétique intérieure et extérieure, décor de véhicule, demandez conseil à des professionnels. Maté Brillant Communication, votre agence Rukerbe au-dessous de Aquilus Piscine à Villefranche. Renseignements sur le site internet. Maté Brillant, la première impression est toujours la bonne.
Dimanche 22 novembre sur l'hippodrome de Montauban, c'est la 11e édition du Cross René Arcusé. Organisé par Montauban Athlétisme, le Cross René Arcusé, un rendez-vous sportif ouvert à tous, licenciés ou non. À partir de midi le 22 novembre, passez une journée sportive, chacun à son rythme. 10 courses pour en profiter de 7 à 77 ans. Inscrivez-vous vite, c'est gratuit et ça pourrait même vous faire du bien. Cross René Arcusé, dimanche 22 novembre à partir de midi sur l'hippodrome de Montauban. On vous attend. Ce message est offert par notre partenaire ERDF. Renseignements sur montauban.athlé.com.
CFM, CFM sur le Grand Rodez, 107.9. CFM.
Alors, on reprend le cours de notre émission spéciale élection régionale avec Kader Youb aujourd'hui. On reçoit dans les studios de CFM Christophe Cavard, député du Gard, tête de liste de Le Bien Commun aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Christophe Cavard, vous avez été membre du PCF, puis d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez quitté Europe Écologie Les Verts. Vous êtes donc tête de liste de Bien Commun. Est-ce que les grands courants politiques ont toujours cours aujourd'hui?
Écoutez, moi, en fait, le Bien Commun, c'est une coopérative politique. En fait, je suis rentré, moi, à Europe Écologie Les Verts en 2009. J'avais quitté, effectivement, mon parti d'origine, où j'étais resté quand même plus de 20 ans, qui était le Parti communiste. Et quand je suis rentré à Europe Écologie Les Verts, j'ai tout simplement suivi quelqu'un qui m'est cher, qui est José Bové, avec qui j'avais fait la présidentielle de 2007. Et donc, l'idée, c'était que c'était un nouveau parti, quelque chose de différent par rapport aux autres. Et il y avait cette idée de construire une coopérative politique. Malheureusement, José Bové a quitté Europe Écologie Les Verts. Danny Cohn-Bendit, qui était le porteur de la coopérative, a quitté Europe Écologie Les Verts. Et donc, un certain nombre d'entre nous ont définitivement acté qu'on n'arriverait pas peut-être à faire quelque chose de différent. Et donc, plutôt que de râler tout seul à l'intérieur, on a décidé à quelques-uns de dire, en gros, cette idée de coopérative politique, de mouvement politique, peut naître aussi à l'extérieur, finalement. Et pourquoi on le ferait pas? Et donc, c'est comme ça qu'est né le Bien Commun. C'est une coopérative politique, et donc rien de mieux pour légitimer un nouvel espace politique que d'aller se confronter à ce qui est la légitimité démocratique, qui sont les élections. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé aussi dans les régionales. C'était aussi le moyen pour nous de dire, est-ce que vous pensez qu'un mouvement différent a sa place plutôt que des partis politiques traditionnels qui sont très décriés? Ça, on est à peu près tous d'accord, on fait tous le même constat aujourd'hui.
Mais dans la pensée, est-ce que vous êtes si loin que ça de Gérard Onesta?
Alors ça, c'est difficile, c'est peut-être ces derniers temps lui qui pourrait le dire mieux que moi, parce que je sais qu'il est assez dur avec moi, mais par contre, au niveau de l'écologie politique, moi je crois à l'écologie politique, mais je la crois à une écologie politique justement libre et indépendante, autonome. Voilà, et c'est vrai que le choix qui a été fait par certaines écologistes, dont font partie Gérard Onesta, mais il n'est pas le seul, de faire un cartel de partis avec le Parti communiste, le Parti de gauche, l'Ensemble, Nouvelle Gauche socialiste, moi, je pense que cette logique-là, j'ai connu les deux mondes, alors je sais de quoi je parle, n'est pas très en phase, et donc les projets en eux-mêmes vont se fondre, et du coup, je crois pas qu'il y a une réalité de convergence aussi forte que ça qui justifie un tel cartel. Bon, à partir de là, nous, on a pris notre autonomie, on fait une liste écologiste, et du coup, avec des habitants qui eux-mêmes ont rejoint l'écologie politique par rapport à leur combat à eux, qui sont des combats souvent dans des quartiers. Nous avons aujourd'hui une forte présence de gens issus de ce qu'on appelle les quartiers difficiles, mais qui sont des militants de la première heure depuis des années là-dessus. Et puis des gens aussi, notre mosaïque de candidats le montre aussi, c'est cette diversité dont on parle beaucoup. souvent en politique, on en parle beaucoup, mais on la voit pas beaucoup dans les listes. Voilà. Nous, on a essayé de faire en sorte que cette coopérative, puisqu'elle naissait, laisse toute sa place aussi à celles et ceux qui ont envie aussi de faire la politique à partir de leur combat du quotidien, dans leur militantisme associatif et autres.
Vous avez, Christophe Gavard, vous avez quitté le parti Europe Écologie Les Verts, mais vous avez été élu avec, sous cette étiquette d'Europe Écologie Les Verts, vous avez embrassé l'accord global que vous avez proposé le Parti Socialiste en 2012. Est-ce que vous vous sentez toujours dans cette même stratégie qui prévalait en 2012? Est-ce que vous êtes finalement en phase, en osmose avec le Parti Socialiste dans ce qu'il est aujourd'hui dans l'action gouvernementale?
Je vais vous dire, je crois que le Parti Socialiste a du mal à être en phase avec lui-même. C'est à peu près ce qu'on voit. Vous avez vu le nombre d'expressions qu'il y a au sein même de ce parti, entre les frondeurs, par les frondeurs, etc.
Ouais, voilà. Que dire d'Europe Écologie Les Verts?
Je vous dis pas le contraire. Moi,
vous avez quitté Europe Écologie Les Verts, mais vous êtes aussi, alors, dans un quasi-groupe, finalement, à l'Assemblée nationale.
C'est pas un quasi-groupe, c'est un groupe d'écologistes. Qui appartiennent à différentes mouvances écolo, vous pourrez rajouter Cap 21, rajouter qui sont des gens, des écologistes aussi qu'on reconnaît en tant que tels. Non, juste pour répondre à votre question sur le Parti Socialiste. Après, moi, je pense qu'il y a une partie du projet de 2012 qui a fait que nous sommes devenus députés les uns et les autres. Je pense qu'il y a eu un écart qui a été fait par aujourd'hui l'exécutif, on appelle, donc soit le président Hollande ou que ce soit le Premier ministre Manuel Valls. Je pense qu'en 2012, les gens pensaient pas. C'était pas le programme total qu'on avait annoncé par rapport aux choix qui ont été faits ensuite. Donc ce sentiment-là de déséquilibre, je crois que tout le monde l'a à peu près ressenti. Et donc moi, ce que je crois, c'est que plutôt que de taper comme un sourd sur celles et ceux aujourd'hui de notre camp de gauche, notre idée à nous, c'est de faire revenir ce pourquoi on a été élus, la plupart d'entre nous, en 2012. Et puis alors après, aujourd'hui, dans un contexte en plus qui, on le redit, mais enfin, j'insiste un peu, mais on le sait tous. À chaque fois, il y a un avant et un après, quoi.
Ouais, c'est un contexte qui va peser forcément sur les élections régionales, qui va avoir une influence certaine sur les résultats. Est-ce que vous craignez justement cette influence sur le scrutin, l'abstention, sur un vote protestataire?
Oui, enfin moi je dis un chat est un chat. Tout le monde tremble aujourd'hui que des gens qui amènent des solutions faciles comme le Front National, totalement populiste, qui stigmatise tout le temps, se retrouvent devant une situation où qui profitent malheureusement de ce chaos un peu que l'on connaît. Donc moi, les choses soient claires aujourd'hui, notre responsabilité politique, là, à tous confondus, les uns et les autres, c'est de regagner justement ce qui permettrait à un moment donné d'amener des réponses dans ce moment très difficile où on a tous un mal-être, on a eu des nausées tout le week-end, etc. Et donc il va falloir à un moment donné aussi peut-être repenser très vite, là, tout de suite, puisque le but c'est pour une nouvelle région, donc une nouvelle collectivité.
Alors, justement, comment ça se traduit? Donc vous parlez de coopératives, de ruches, d'idées, c'est un petit peu à la mode, hein. Malheureusement, je suis désolé de vous le dire, hein. Philippe Sorel fait état aussi d'un mouvement citoyen. Comment détricoter tout ça? Et dans ce prolongement, je voulais savoir avoir votre avis sur ce qui se passe réellement chez les écologistes. Lorsque vous quittez Europe Écologie Les Verts, vous avez pris François de Rugy, Jean-François Placé. François Placé ont quitté les Verts, ont créé des mouvements. Il y a maintenant des mouvements pour chaque personnalité. Est-ce que ça, c'est ça, ça augure pas finalement d'un changement?
Après, ouais, je vais vous dire la logique que les écologistes prennent de plein fouet, mais c'est la même logique politique. Aujourd'hui, la gauche s'est ancrée dans un mouvement révolutionnaire ouvrier. Et puis les années ont passé, et puis cette gauche a réfléchi sur ce qu'on a appelé le réformisme. Alors, au passage, la droite s'est construite sur une logique plus économique libérale, et puis petit à petit glisse aussi vers des logiques où très individualistes, avec une question aujourd'hui où on rend responsable tout le temps l'individu sur tout et n'importe quoi. Voilà. Bon, ça, ce sont les évolutions de notre temps. Donc les écologistes comme les autres, ils prennent de plein fouet cette question-là. Je dis juste que par rapport à ces choix politiques que nous faisons nous, vous m'avez cité d'autres exemples de candidats qui pourraient s'en revendiquer. Une fois de plus, il y a deux mondes. Il y a le monde du cartel des partis. Celui-là, je vous ai dit que ça m'intéressait plus, mais je le juge pas. Après, c'est les gens qui jugeront, c'est pas moi, au moment du vote. Et puis, il y a ceux qui disent qu'ils veulent faire différemment. Et puis, le premier des candidats qu'on voit apparaître à chaque fois comme moteur, ce sont des élus locaux ou des gens qui ont été aussi... des gens qui ont été déçus peut-être de leur formation politique aussi parce qu'elles les ont pas investis. Voilà. Moi, je dis juste qu'il faut faire attention.
Dans quelle gauche, justement? Dans quelle gauche êtes-vous?
Eh ben moi, je suis dans ce que j'appelle le monde réel, c'est-à-dire que je vais vous donner un exemple très précis. Vous avez un certain nombre de nos candidats tête de liste qui sont des gens, j'insiste, qui ont pas ou peu eu de mandat électif ou qui ont une certaine expérience pour certains, mais très récente dans ce domaine-là, mais qui sont surtout représentatifs de tout ce que ces gens qui, jusqu'à présent, étaient peu ou pas entendus du tout. Et donc, en les mettant en tête de liste, le vrai enjeu, c'est que ce soit eux demain qui soient au conseil régional. Ils seront pas des 158, je rêve pas, mais s'il y a déjà, il y a un certain nombre de ces gens qui y soient. Ben nous, on espère un groupe. Donc après, moi, je dis, s'il y a une dizaine de personnes...
Avant d'avoir un groupe, il faut...
Qui puissent représenter la coopérative, eh bien, ça sera ce qu'on appelle un peu de nos voeux, un changement aussi de personnel politique, avec des gens nouveaux, avec des gens qui ont des codes nouveaux, qui ont des réflexes de relationnels avec les citoyens qui sont pas les mêmes que dans le monde politique classique. Et voilà, vous parlez à un candidat qui est tête de liste régionale, mais qui a pour vocation, et j'expliquerai sûrement pourquoi, à ne pas être lui-même conseiller régional demain.
Donc, expliquez-nous pourquoi.
Mais tout simplement parce que moi j'ai une expérience, j'ai été 16 ans conseiller général, j'ai été député, donc je mets plutôt toute mon expérience au service de la création de cette coopérative, mais la priorité ce sont celles et ceux dont je viens de vous parler qui doivent aller demain au conseil régional représenter donc, aussi ce que notre mouvement. Concrètement, moi je serai au second tour, ce que nous souhaitons, dans le cadre des fusions, pas dans une position éligible. Parce que je veux laisser la place à priorité.
Donc vous ne siégerez pas au futur conseil régional.
À titre personnel, non.
À titre personnel.
Mais je soutiendrai justement à la coopérative.
Est-ce que vous ne prêtez pas le flanc finalement à ceux, je suis désolé de vous poser cette question, prêtez le flanc à ceux qui vous accusent ici et là finalement d'être un poisson pilote, un satellite du Parti Socialiste. Vous savez que c'est l'accusation qu'on vous porte d'être finalement...
Ça pour le coup, j'étais sourd, si je l'avais pas entendu, mais très concrètement,
vous demandez ça de toutes pièces par le Parti Socialiste pour siphonner des voix de Gérard Onesta.
Oui,
vous l'entendez.
À l'inverse, je pourrais dire que Philippe Sorel est né grâce à ceux qui voulaient taper sur le Parti Socialiste, parce que c'est
En disant que vous ne siégerez pas, est-ce que vous prêtez pas le flanc?
Mais non, mais Alors, faut savoir ce qu'on veut. J'ai été moi-même un élu. Ça fait plus de 20 ans que je suis élu. Et donc, celles et ceux comme Gérard Onesta ou Philippe Sorel, etc., ils sont élus autant de temps que moi. Et on est les premiers à dire il faut de la nouveauté, etc. Et puis nous, on serait pas capable de laisser des places à d'autres. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos têtes de liste...
Mais lorsqu'on mène un combat siéger, devant ces troupes, on dit pas avant le combat, avant l'ultime bataille, on dit pas je vous conduis, mais après, je n'y serai pas.
Mais je conduis un collectif.
Oui.
C'est très juste ce que vous êtes en train de dire. Il y a ceux qui jouent les chefs de guerre et qui sont là pour aller en disant, en gros, je suis le chef... Je suis le grand patron, je prends des citoyens, mais à condition qu'ils me servent pour pouvoir, moi, demain, devenir encore prolongé d'être un patron. Non, moi, ou des militants politiques. Je suis en train de vous dire, moi, que la priorité, et je pense que c'est ce qui est demandé, c'est d'avoir des gens nouveaux. Et donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que moi, je serai présent dans la coopérative politique, je serai un des acteurs principaux aussi de la coopérative politique. Mais je pense sincèrement qu'il est temps, enfin... Un certain nombre de gens, je pense à des gens comme Sabria Boilaga qui est tête de liste dans l'Hérault, comme Marie-Ange Billot qui est tête de liste dans la Haute-Garonne, comme un certain nombre de candidats aussi en Haute-Pyrénées, en Ariège, dans le Lot, etc., qui sont des gens déjà investis depuis très longtemps, qui sont pour certains même à quelques mandats locaux, mais qui sera une vraie respiration pour une institution qui a besoin vraiment de changer de personnel.
C'est Christophe Cavard, notre invité aujourd'hui, député du Gard, tête de liste du Bien commun aux élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. J'ai lu quelque part, Christophe Cavard, que vous dites que la région Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, pour laquelle vous faites campagne, sera une région difficile à mener de par ses faibles revenus économiques.
Oui, ben après c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une des compétences premières de la région. Or, on voit bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de populations qui se retrouvent en difficulté sur le plan économique. Moi, mon diagnostic, c'est de dire en gros, faut arrêter la mise en concurrence permanente des territoires. Vous voyez, nous, on est avant qu'on fusionne les deux régions, elles étaient quasiment en compétition les unes contre les autres. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis pour, par exemple, l'économie sociale, qui va faire en sorte qu'on va rediscuter la répartition démocratique qu'il y a dans une entreprise, la question des revenus, la coopération entre entreprises. Et le but, c'est quand je crée mon entreprise, c'est pas de tuer celle d'à côté parce qu'il faut que j'existe. Le but, c'est pas de créer de la concurrence où on va tirer vers le bas le fait qu'on est mal payé et que donc du coup on aura des mauvais revenus. Voilà, donc c'est repenser cette logique-là et donc de redonner de la richesse aussi à la région. Et je suis écologiste, donc je suis fédéraliste. Donc moi, je lis la grande région avec aussi un développement de l'Europe. Et donc, je souhaite que cette Europe aussi soit plus importante, plus forte, encore plus aujourd'hui avec le drame qu'on vient de connaître. Il y a quelques propositions précises d'ailleurs en lien avec cette question-là, parce que je pense que la France ne peut pas répondre seule à ce type de phénomène. Et donc, du coup, Europe plus forte, plus démocratique,
plus investi aussi, avec des moyens financiers, c'est-à-dire de l'impôt, qui peut être mis européen, en échange de quoi ? Il y a des moyens qui soient redistribués, y compris où, dans nos régions, pour pouvoir développer de nouvelles politiques économiques, notamment sur la base de l'économie sociale.
Il reste 4 minutes, Cadario.
Oui, économie sociale et solidaire, donc vous en parlez.
Pardon.
Gérard Onesta, encore lui, disait à cette même place qu'elle représentait 13% de l'emploi Midi-Pyrénées pour la seule région Midi-Pyrénées. Comment justement faire en sorte que cette économie sociale et solidaire puisse être plus attractive, qu'on la connaisse mieux, finalement, hormis les initiés, très peu de gens, très peu de citoyens la connaissent.
Tout simplement, c'est parce que c'est le rôle de la collectivité. Je vous donne un exemple très précis.
Oui, mais comment
Les marchés publics.
Oui.
Des millions sont investis par les collectivités dans le cadre des marchés publics. Aujourd'hui, il y a une circulaire qu'on appelle Valls. Vous voyez, comme quoi, il n'a pas fait que des choses horribles, mais enfin, à mon avis, il l'a signé parce qu'on lui avait demandé de le faire, sur le fait que, en gros, on puisse retravailler avec les secteurs de l'économie sociale et notamment les secteurs associatifs, 70% du champ de l'économie sociale, sous forme de subventions plutôt que de mise en concurrence et de marché. C'est là, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc, comment on fait très concrètement? On arrête le fait de donner nos marchés publics transport et tout un tas d'autres compétences de la région à des multinationales et on le donne à des entreprises du champ de l'économie sociale qui sont à des tailles aussi qui permettent de pouvoir répondre à l'intérieur de notre région ou même à partenariat avec des régions voisines si on n'a pas la réponse sur notre territoire. Donc voilà, très concrètement, ce sont des millions d'euros d'investissements qui sont mis en place par les collectivités et notamment le conseil régional qui peuvent être enlevés aux multinationales qui participent à la déréglementation financière et qui soient donnés à ces entreprises d'économie sociale. On a la loi pour nous. J'étais rapporteur de la loi sur l'économie sociale. Je sais de quoi je parle. On a les leviers, on a les articles, on a tout ce qu'on a pour pouvoir le faire. Il suffit juste que demain, il y ait une volonté politique et des personnels à la région qui soient formés pour ça.
Christophe Gavard, des millions d'euros, est-ce que vous en mettrez si vous êtes... Non, vous ne serez pas, mais si votre, si votre collectif est à la région Midi-Pyrénées, hein, qui tient les rênes de la région Midi-Pyrénées-Languedoc, Languedoc-Roussillon, est-ce que vous mettrez des millions d'euros sur la future LGV, notamment est-ce que vous en mettrez? Est-ce qu'il y a une différence?
Non, moi je pense que c'est pas aux collectivités, c'est à l'État de le faire. J'ai été au Conseil général du Gard, où nous on a
sur le projet,
on a la partie Montpellier, la partie donc Montpellier, contournement de Nîmes, Montpellier-Perpignan. Oui. Au Conseil général du Gard, j'étais encore Conseil général, j'étais président du groupe écolo, et on nous avait demandé de mettre 40 millions d'euros. Moi j'ai dit c'est hors de question. C'est pas que je suis contre là pour le coup le transport, mais c'est pas le rôle d'une collectivité locale. La collectivité locale, quand vous regardez les impôts qu'elle lève, ils sont pas faits pour payer ce genre d'investissement. Donc à chacun sa responsabilité, c'était à l'État, à l'Europe éventuellement de financer, mais en aucun cas pour les collectivités.
C'est un serpent de mer.
Non, c'est pas un serpent de mer, c'est que vous imaginez que c'est 40 millions d'euros, je parle que pour le Conseil général du Gard, vous multipliez ça par tous les projets d'infrastructures dont on peut se poser la question s'ils sont vraiment utiles aujourd'hui.
La LGV, est-ce que vous êtes pour?
Laquelle, la LGV? Parce que du coup, j'en ai deux.
Bordeaux.
Ah non, sur la Toulouse-Bordeaux, moi je suis contre et je vous dis pourquoi. C'est parce que tout simplement, je sais par la SNCF qu'il y a aujourd'hui la possibilité d'avoir des TER à grande vitesse à 200 km/h. C'est la direction de la SNCF qui me l'a dit. Donc, absolument pas besoin de mettre une LGV, au même titre que c'est complètement fou d'avoir fait à l'inverse Bordeaux-Toulouse en tant que tel.
C'est la fin?
Bah oui, c'est la fin.
C'est la fin.
C'est la fin.
Bon, merci Christophe Gavard, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Accepté notre invitation.
Merci.
Merci Christophe Gavard d'avoir participé à cette campagne régionale sur CFM Radio. Prochain candidat.
C'est demain. Un duplex de Tarbes, hein, un duplex. Dominique Crénier, le candidat de la droite du centre de la société civile et de chasse-pêche, nature et tradition.
Merci Kader. Bonne soirée à vous.
Merci. Au revoir.
CFM. Il est 18h, il vous tarde de vous mettre au chaud ?